Le marchand ne peut plaire à Dieu ou difficilement. Extrait du décret de Gratien à propos des marchands au milieu du XIIe siècle.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Pendant très longtemps, à l'époque médiévale, l'Église a eu du mal à accepter le principe même du commerce, du prêt d'argent. Et effectivement, comme nous venons de l'entendre, le décret de Gratien, au milieu du XIIe siècle, expliquait que être marchand comportait une difficulté, c'est-à-dire qu'on en plaisait difficilement à Dieu. Et effectivement, toute une tradition ecclésiale faisait que le marchand était difficilement accepté par la hiérarchie de l'Église. Ainsi, on attribue à Grégoire le Grand la phrase suivante « Il est difficile de ne pas pécher quand on fait profession d'acheter et de vendre ». De même, au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin souligne que le commerce, considéré en lui-même, a un certain caractère honteux. Donc, essayons de nous interroger sur ces condamnations théoriques de l'Église à propos du marchand et du prêt également que suppose des fois le commerce. Le premier motif, c'est d'abord que le commerce suppose le désir du gain, la soif de l'argent, ce qu'on appelle en latin le lucrum. Saint Thomas déclare effectivement que le commerce est blâmé à bon droit parce que de lui-même, il satisfait à la convoitise du lucre qui, loin de connaître quelques bornes, s'étend à l'infini. Et la littérature, d'ailleurs, du Moyen-Âge, a gardé le souvenir et l'image que les contemporains avaient du marchand avide et qui, d'ailleurs, voulait amener sa richesse au-delà de la mort. Ainsi, il y avait un credo de l'usurier où le héros moribond, que certains ont comparé au personnage de Balzac, Grandet, ne se contente pas d'entremêler aux mots de sa dernière prière des allusions à son argent, mais le fait apporter et amasser devant lui en achevant sa récitation. Et demande d'ailleurs qu'on l'enterre avec son plus gros sac d'argent. Autre problème qui était posé aux yeux de l'Église, c'était la question de l'usure, c'est-à-dire le prêt d'argent avec un intérêt parfois abusif. Les raisons avancées par l'Église médiévale pour la condamnation de l'usure sont diverses. Et d'abord, il y a un argument important, c'est que des textes scripturaires de l'Ancien et du Nouveau Testament semblent effectivement condamner le principe du prêt à intérêt. Ainsi, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 23. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour aucune chose qui se prête à intérêt. De même, dans le Nouveau Testament, au livre 6 de l'Évangile de Saint-Luc, qui place dans la bouche du Christ les mots suivants. Si vous ne prêtez qu'à ceux dont vous espérez restitution, quel mérite avez-vous? Car les pécheurs prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Prêtez sans rien espérer en retour, et votre récompense sera grande. Ainsi, il y a bien une condamnation de l'idée même de faire un bénéfice sur de l'argent prêté. D'autre part, il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est la conception chrétienne du temps. Parce qu'effectivement, prêter de l'argent suppose de jouer avec le temps. On a un certain temps pour rembourser, on a un certain temps pour rembourser les intérêts, et donc finalement, il y a une conception chrétienne qui condamne l'idée de jouer avec le temps, car celui-ci n'appartiendrait qu'à Dieu. Et effectivement, on a toute une série de théologiens médiévaux qui trouvent que finalement, vendre du temps, et saint Thomas en parle lui-même, n'est pas véritablement chrétien. Et puis il y a un autre argument, qui n'est peut-être pas le plus décisif, mais qui pouvait heurter des consciences chrétiennes de l'époque, c'est qu'on s'aperçoit que les marchands chrétiens font commerce avec les infidèles et parfois ont véritablement des contacts très fructueux avec le monde musulman. Au point d'ailleurs que nous avons plusieurs exemples d'amitié qui se lient entre des marchands italiens qui font affaire avec des musulmans de Tunis ou de l'Empire turc par la suite. Et donc, effectivement, est-ce que l'on peut, en tant que bon chrétien, commercer et lier des relations souvent étroites avec des infidèles? Donc, la théorie montre bien qu'il y a une difficulté avec le commerce. Mais on va s'apercevoir que dans la pratique, les choses sont évidemment beaucoup plus complexes. Oui, effectivement, la situation est beaucoup plus complexe dans la réalité. D'abord parce que on s'aperçoit à plusieurs reprises que l'Église protège des marchands. Ainsi, en 1074, le pape Grégoire VII ordonne au roi des Francs Philippe Ier de restituer à des marchands italiens venus dans son royaume les marchandises qu'il avait fait confisquer. De même, de manière plus locale, en 1263, l'évêque de Dinan fait édifier une halle qui, je cite, « est faite pour le profit et l'utilité de tout le monde et surtout pour les marchands ». Donc, effectivement, il y a a priori une contradiction entre ces prises de position de défense des marchands et ce que nous avons vu condamnant le commerce et le prêt à intérêt. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il est indéniable que l'Église est impuissante face au progrès de l'économie médiévale. À partir du XIe siècle, et le phénomène s'accélère au XIIe siècle et en grande partie au XIIIe, l'économie de la chrétienté occidentale progresse beaucoup. Les campagnes produisent de plus en plus, les villes connaissent une expansion indéniable, pensons aux communes italiennes, et même au cas très particulier de Florence ou de Venise. Et donc le commerce se fait de plus en plus en dehors, à côté de l'Église. De plus, le commerce se développant, la circulation monétaire se développe. Et au XIIe et surtout au XIIIe siècle, la monnaie circule dans toute la chrétienté. Des banquiers lombards, en particulier, à Paris, ont pignon sur rue pour le prêt. Alors certes, on peut toujours estimer qu'il vaut mieux éventuellement demander à des riches juifs qu'ils puissent se prêter avec intérêt parce qu'eux ne sont pas chrétiens, mais dans la réalité, il y a de plus en plus de chrétiens qui font œuvre de marchands et de prêteurs. Autre élément qu'il faut prendre en compte également, c'est que l'Église elle-même bénéficie de cette expansion économique. Parce que effectivement, le marchand est devenu de plus en plus utile. D'abord parce que le marchand participe aux constructions de l'Église. Les cathédrales, les églises qui sont construites au XIIe, XIIIe siècle, sont souvent payées avec des dons de confréries marchandes, avec des dons qui permettent d'édifier les églises qui vont faire la gloire de la chrétienté lors du Moyen-Âge central. Donc finalement, les marchands eux-mêmes, qui se veulent bons chrétiens, participent par leurs fonds et par leurs dons à l'enrichissement des bâtiments, des églises où le culte a lieu. Donc il y a évidemment une ambiguïté entre condamner continuellement quelque chose qui finalement est utile à la collectivité. Car effectivement, se développe au cours du Moyen-Âge la question de l'idée du bien commun, de l'utilité commune, qui avait été déjà importante dans la pensée d'Aristote et qui finalement se retrouve dans les auteurs chrétiens. Par exemple, saint Thomas relie cette idée à celle du travail. Il écrit à ce sujet « Si on se livre au commerce en vue de l'utilité publique, si on veut que les choses nécessaires à l'existence ne manquent pas dans le pays, Le lucre, au lieu d'être visé comme fin, est seulement réclamé comme rémunération du travail. C'est-à-dire qu'en fait, le bénéfice, les apports du commerce en tant que rémunération du travail, ne peuvent pas être condamnés. De même, Guillaume Durand ou Burchard de Strasbourg écrivent « Les marchands travaillent pour le bénéfice de tous et font œuvre d'utilité publique en apportant et emportant les marchandises aux foires ». Finalement, l'Église se rend compte effectivement de l'intérêt du commerce, des échanges dont elle va finalement bénéficier. D'ailleurs, un manuel de confession du XIIIe siècle réagit justement à cette question. Il y aurait une grande indigence en beaucoup de pays si les marchands n'apportaient ce qui abonde en un lieu dans un autre, où ces mêmes choses font défaut. Aussi, ils peuvent, à juste titre, recevoir le prix de leur travail. Donc, on voit qu'il y a effectivement évolution. Néanmoins, l'idée effectivement de l'enrichissement excessif, l'idée de ne pas penser à la redistribution des biens, est quelque chose qui travaille la mentalité médiévale jusqu'au XVe siècle. Et dans les pays rhénans et dans les Flandres, il y a ces Ars Moriendi où l'on voit des petits diablotins qui tournent autour du lit du moribond en tenant des sacs d'or et en prévenant que s'ils ne se débarrassent pas de cet or, eh bien le diable l'emportera.